Chapitre 7e, la terrible menace. Comme nous revenions après cette soirée exquise dans laquelle s'était manifesté tant d'affection, je dis à Martin Numa : Ne croyez-vous pas que le chevalier a commis une imprudence en faisant venir maintenant cette délicieuse Ginetta à Paris ?
Pourquoi ?
Il vient de remporter sur les X une victoire énorme. Il aura tué un de leurs plus importants complices.
C'est exact.
Vous savez que ces gaillards sont absolument dépourvus, je ne dis pas de scrupules, mais de toute humanité.
Très juste.
Les pires moyens ne les rebutent pas, et ils n'ont aucune hésitation à employer la plus cruelle lâcheté. Nous l'avons vu quand ils ont forcé la Marjalina à se taire, en la menaçant, par la carte postale au petit mouton, de frapper son enfant.
Oui, la carte postale au petit mouton.
Eh bien, ne croyez-vous pas qu'ils peuvent chercher à se venger du chevalier en frappant Ginetta ?
En effet, cela rentrerait parfaitement dans leur façon d'agir.
Donc, à mon avis, le chevalier a eu tort de faire venir en ce moment Ginetta à Paris.
C'est une opinion qui peut se soutenir.
Je le crois. Mais l'opinion contraire est également très défendable.
Laquelle ?
Que le chevalier a bien fait d'appeler auprès de lui, dans cette ère de bataille et de trahison, de lâcheté, cette jeune fille, pour la livrer comme la Marjalina au cou des bandits ?
Martin Numa secoua la tête et me dit :
C'est à Paris que Ginetta court le moins de danger.
Comment cela ?
Les X ont des ramifications un peu partout. Ils n'hésiteraient pas d'ailleurs à faire un voyage ou à envoyer un de leurs émissaires pour frapper Ginetta n'importe où, où la jeune artiste se ferait entendre.
Très juste, j'ai compris.
Tandis qu'ici, elle est près du chevalier, qui la surveille, et nous, nous allons la garder.
Parfait.
Martin Numa alluma, comme vous le savez, cela lui arrivait très souvent, une nouvelle cigarette, puis, après quelques minutes de silence, que je me gardais bien d'interrompre par une question ou une réflexion quelconque, se tournant brusquement vers moi, il me dit :
Mon cher Courville, à l'instant vous parliez de la carte postale portant le portrait d'un enfant avec son petit mouton, irayé d'un X symbolique et terrifiant.
Carte qui a confirmé vos soupçons sur la menace de ces bandits.
Cette carte est le portrait, nous le savons, du fils de la Marjalina.
C'est vous qui l'avez établi, car le silence de cette malheureuse jeune femme et de la bonne vieille qui la soigne avec tant de dévouement ne pouvait obstinément rien vous apprendre.
Bon.
Eh bien, mon cher Courville, malgré ce silence, j'ai non seulement appris que cet enfant au petit mouton était le fils de la Marjalina, mais j'ai pu arriver... Permettez-moi de ne pas vous dire encore par quel moyen, ce serait trop long. J'ai pu arriver à savoir où se trouve cet enfant.
Je n'ai pu, moi, retenir un cri d'étonnement.
J'allais témoigner mon admiration. Mais Martin Numa, amicalement, me coupa la parole.
« Merci, mon cher Courville, »
me dit-il en riant.
« Je devine vos compliments.
Oui, c'est un joli tour.
Je suis content de l'avoir réussi.
Je sais où est l'enfant de la Marjalina. Nous allons pouvoir aller le prendre. » Et une fois que le petit sera en nos mains, nous arracherons la jeune femme à la terrible menace de ces bandits.
Le roi des détectives, encore une fois, avait bien mérité son titre. Il ajouta :
Mais nous ne pouvons pas enlever l'enfant tout de suite. Il faut être prudent. Ces gens sont très forts, vous le savez. S'ils venaient à apprendre que je sais cela, l'enfant et la mère seraient exposés au plus grand danger.
Naturellement, les misérables.
Quand nous aurons mis l'enfant en lieu sûr, hors de l'atteinte de ses forbans, la mère n'hésitera pas à nous dire ce qu'elle sait. Or, je suis persuadé qu'elle connaît la vérité sur le marquis. Elle sait ce que veut dire le marquis double. Et c'est justement ce que ses forbans veulent l'empêcher de vous dire.
Elle va pouvoir parler.
Martin Numa ajouta : Fait étrange, bizarre coïncidence, mais qui vous expliqueront bien des choses, quand ce ne serait que leur haine contre le chevalier Fontis. C'est en Sicile que se trouve l'enfant.
En Sicile,
dans une ferme, à San Tito, un village sur la montagne. J'ai envoyé un homme à moi, un garçon sûr, intelligent, un Sicilien, prendre les renseignements, vérifier et préparer ma venue. Dans quelques jours, j'irai enlever l'enfant.
Martin Numa ne m'en dit pas plus long sur cette découverte importante et ne me parla pas davantage de son projet de voyage en Sicile. Je ne le rencontrai de 2 ou 3 jours et ne vis personne de son équipe, ni Prosper, ni Philippe. Je pensais même qu'il avait dû partir, plus vite qu'il ne me l'avait laissé entendre, pour son expédition en Sicile. Mais un matin, il entra chez moi au moment où j'allais sortir.
« Non, me dit-il en riant, non, mon cher Courville, je ne suis pas allé en Sicile. Vous pensez bien que je ne serais pas parti sans vous avertir ?
Vous m'emmènerez ? Je ne sais pas encore.
Je crois même que j'aurais au contraire besoin de votre présence à Paris. Je crois que vous me rendrez plutôt service en restant ici pendant que je serai là-bas.
Comme vous voudrez, je suivrai vos instructions.
Enfin, nous verrons. Je n'ai encore rien décidé. »
Il ajouta,
« Je dois rester à Paris quelques jours encore parce qu'il va se produire ce que nous appellerons un fait nouveau. »«
Ah, lequel ?»«
Le comte de Villers-Cherbourg va quitter l'hôpital de Saint-Germain et rentrer chez lui.
Il est guéri ? » ?»«
Ou du moins assez fort pour ce voyage. »« Je tiens à savoir ce qui va se passer pendant les premiers jours de sa nouvelle installation. »« En effet, vous avez à établir un nouveau mode de surveillance autour du comte. »«
Et ce n'est pas commode,
attendu que, comme vous le savez, il va voir sans cesse auprès de lui le plus redoutable auxiliaire de ses ennemis,
la belle Focamore,
son Elvira adorée. Ce malheureux est plus aveuglé que jamais par son amour. Le chevalier vient encore de m'en donner l'assurance, en me racontant sa dernière visite à l'hôpital. Voici ce qui s'était passé. Le chevalier s'était rendu, comme le lui avait demandé Martin Numa, à Saint-Germain. Il trouva le comte assis dans un fauteuil, et lui manifesta sa joie de le voir ainsi. «
Je suis heureux, mon cher Leo, de te voir, sinon debout du moins autrement que couché. »«
Tu es assis, c'est-à-dire à demi-debout. »«
Oui, je suis guéri à moitié, et j'espère sous peu que les médecins, qui m'ont soigné avec tant de dévouement et de science, me permettront de rentrer enfin dans mes pénates. »«
Je compte bien être là pour fêter avec toi cet heureux retour. »«
D'autant plus, mon cher Raffaele, que nous aurons alors à parler sérieusement de choses qu'ici nous ne pouvons, sans manquer à toute prudence, seulement esquisser. Je tiens aussi, et pour une raison que tu connaîtras, qu'il ne m'est pas permis de te faire entrevoir encore aujourd'hui, à avoir avec un excellent et digne homme une entrevue de la plus haute importance à laquelle je te prierai d'assister. Cet homme, c'est Martin Numa. »
Le chevalier tressaillit. « Martin Numa, »
fit-il. « Oui, le célèbre détective. » J'eus recours à ses bons offices. Malheureusement, l'entretien qui commençait dans une tonnelle du bord de l'eau, à Vilaine, brusquement fut interrompu. La suite de cet entretien fut cet accident qui faillit me coûter la vie, accident que je ne m'explique pas encore et qu'il faudra étudier de très près quand je serai debout. Cet entretien, dis-je, interrompu, je n'ai pu le reprendre encore. Non pas seulement parce que la maladie m'empêchait de parler, mais parce qu'une raison plus forte que le danger de mort pour moi, entend bien, pour moi, scellait mes lèvres. Mais moi, guéri et enfin debout, nous reprendrons cet entretien. J'espère arriver à satisfaire la curiosité de Martin Numa et en même temps assouvir ma haine et mon grand désir de vengeance. Mais je ne t'en dis pas plus long aujourd'hui. J'ai peur, vois-tu, non pour moi, tu le sais, j'ai peur pour un être cher, auquel je tiens plus qu'à ma vie. Et je te prie d'attendre encore quelques jours. Alors je ne serai plus seulement à moitié debout, mais valide. Je pourrai faire face aux événements. Je pourrai me trouver en présence de n'importe quel ennemi, prêt à me défendre, et je l'espère, pouvant vaincre. C'est alors, cher ami, que je te prierai de me seconder. J'espère qu'à ce moment ton bras sera aussi guéri, et que tu m'apporteras le concours précieux de la main droite, aussi vaillante que noble. Le chevalier tendit sa main droite au comte di Villacerboli et lui dit « Voilà ma main, elle est à toi, comme toute mon amitié, comme toute mon affection au fond que je suis moi-même tout entier à ta disposition. Tu n'auras qu'à me dire le jour, et ton ami sera près de toi, prêt à partager le danger, si grand qu'il puisse être, et heureux si mon concours peut t'entraîner vers la victoire. » Les deux amis s'étreignirent affectueusement. Le chevalier, peu après, prit congé du comte di Villacerboli. Dans la journée, il vint rendre compte à Martin Numa de cette visite et lui redire les paroles du comte dont on comprenait la grande importance. Et c'est dans cette scène de gravité exceptionnelle, en effet, que me parlait en ce moment le roi des détectives. Mais tout en l'écoutant, en repassant en mémoire les divers événements que cette scène évoquait, une question se présenta à mon esprit. Le comte di Villacerboli était, selon toute apparence, détenteur d'un secret important qui lui avait valu cette tentative d'assassinat. Or, le comte di Villa Cervoli n'était pas mort. La pierre du tombeau, comme dit le poète, ne pesait pas sur ses lèvres. Le comte, quoique encore malade, encore en traitement à l'hôpital de Saint-Germain, pouvait cependant parler. Pourquoi, pensais-je, Martin Humann n'allait-il pas demander au comte di Villa Cervoli d'achever sa déclaration, de finir son aveu? Surtout, après les nouvelles déclarations du chevalier Fontis. Cela me semblait tout simple. Cependant, quelque envie que j'en eusse, je me gardais bien de poser sur ce sujet la moindre question à Martin Humann. Mais cet homme, vraiment, semblait lire dans les fronts ce que pensait le cerveau. À brûle-pourpoint, comme s'il répondait à ma question, il me dit « Vous croyez que je n'ai pas tenté de le faire ?»« Quoi donc ? » fis-je très surpris. « Que je n'ai pas essayé d'arracher au comte di Villa Cervoli la fin de sa déclaration ?» Je ne pus m'empêcher de tressaillir. « Vous croyez que je n'ai pas tenté de faire parler la Margellina ?» Et comme je ne trouvais rien à dire, il reprit, en se mettant, selon son habitude, à marcher de long en long, « Que je n'ai pas essayé de passer outre malgré la terrible menace ?» J'ai tout essayé, tout tenté, pour obtenir la fin des aveux du comte di Villa Cervoli.